au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'émission Au fil des pages, nous avons quelquefois le plaisir d'inviter un éditeur ou un directeur de collection d'une maison d'édition, une grande maison ou une maison plus modeste, afin de parler de l'édition, justement, de ses difficultés, de ses joies aussi, des projets, des auteurs. Et aujourd'hui, c'est avec notre ami Jean Pruvot, que vous connaissez bien puisqu'il anime sa rubrique sur Canal Académie mot pour mot, que nous allons évoquer une maison d'édition honorable, sans doute l'une des plus anciennes de Paris, vous me le confirmerez Jean, les éditions Honoré Champion, dont il est le directeur éditorial. Bonjour Jean.
Bonjour Hélène.
Et j'ai également le plaisir de recevoir dans ce studio Frédéric Barbier, directeur à l'École pratique des hautes études, où vous tenez la chaire, Monsieur Barbier, d'histoire et de civilisation du livre. Et vous pourrez donc nous donner un regard sur le livre et sur la maison Champion. Bonjour Monsieur Barbier, soyez
Bonjour.
Le bienvenu.
Merci.
Alors Jean, cette maison d'édition Honoré Champion, elle porte le nom d'un homme, je suppose, qui était Honoré Champion.
J'ai presque envie de rebondir sur quelque chose qui ne m'avait pas frappé jusqu'ici. Vous venez de dire cette honorable maison, maison honorée, honorée champion. Donc peut-être était-elle prédestinée,
voilà, l'amateur de mots.
par le prénom de son créateur. Mais en vérité, il faut remonter au XIXe siècle. Il s'agit, bon, on le sait, d'un siècle du progrès, d'un siècle de l'histoire, d'un siècle aussi où l'érudition n'est pas un vain mot. Et j'ai la sensation qu'au XXIe siècle, bon, nous sommes aussi dans cette période, mais la maison Honoré Champion aura tenu 3 siècles, et j'espère bien 4 ou 5. Alors, en 2 mots, il se trouve que, vous savez, beaucoup de choses se jouent sur les rives de la Seine lorsqu'on est au XIXe siècle. Il y a la rive gauche et la rive droite. Il se trouve que le père d'Honoré Champion, Bourguignon, vient donc sur Paris et décide d'essayer de faire fortune, comme d'ailleurs Larousse, à un moment donné, avec le commerce du vin de Bourgogne, venant sur les quais de Bercy. Il échoue. Et du coup, c'est sur la rive gauche. Alors, il n'y a pas de lien, évidemment, d'effet direct, mais c'est sur la rive gauche qu'Honoré Champion, qui, lorsqu'il a 13 ans, entre comme commis dans une librairie, la librairie du Moulin, qui est une librairie d'érudition, où on est spécialisé dans la numismatique, dans l'histoire, et où se rendent très souvent des érudits de l'époque. Parmi ces érudits, il y a justement Sainte-Beuve. Et Sainte-Beuve a vite repéré, de même qu'évidemment Monsieur Dumoulin et son épouse, que Honoré Champion avait une forte mémoire, qu'il était vif, intelligent, qu'il connaissait bien, dit-on, son histoire de France. Et rappelons quand même qu'il n'avait pas dépassé 13 ans de scolarité, puisqu'il entre comme commis à 13 ans. Et Sainte-Beuve lui demande de venir organiser sa bibliothèque le dimanche. On connaît les lundis de Sainte-Beuve, donc ça devait être la veille
de ces
réunions. Et il dit d'ailleurs, avec une sorte de charme fou, il me donnait chaque dimanche 10 sous, et il en était très fier. Et donc, on a compris que très vite, il va être chargé du catalogue de la maison du Moulin. Le catalogue, c'est très important, bien entendu, dans une maison d'érudition. Arrive la guerre de 1870, il s'est engagé pour défendre la France, et on le retrouve à Metz, il a 20 ans, au moment où les Allemands vont occuper la ville, l'occupent déjà, et avec la ferme intention de germaniser, bien sûr, la ville. Et une des premières choses qu'ils font, c'est de libérer, c'est le mauvais terme qui convient peut-être, c'est de supprimer les livres qui se trouvent dans la bibliothèque de l'école d'artillerie et de les vendre à l'encan.
Moi, ils
les ont
pas brûlés, c'est déjà
voilà,
ça.
Voilà, ils les ont pas brûlés. Honoré Champion se trouve là. Il ne passe pas de coup de téléphone, c'est pas encore la pratique, ni même possible, mais un télégramme à Dumoulin en lui disant qu'il faudrait à tout prix acheter ses livres. Et il se débrouille pour affréter 3 wagons et rapporte donc 3 wagons de livres correspondant à cette bibliothèque. Qu'y a-t-il au milieu de ces livres? Les manuscrits de Vauban. Donc c'était quand même un assez joli coup d'éclat. Et du même coup, eh bien, il prend confiance en lui. Il a 20 ans. Quelques années après, il va monter sa propre maison d'édition. Voilà le début un peu assez extraordinaire.
C'est une belle histoire. Et vous la connaissiez, Frédéric Barbier, je suppose. L'histoire d'Honoré Champion, elle vous séduit aussi?
Oui, elle nous séduit d'autant plus que j'étais un ancien élève de l'école des Chartes et que notre directeur de l'époque, dans les années 70, Jacques Monfrin, a publié une petite plaquette sur l'histoire de la Maison Champion. Donc on était... J'imagine d'ailleurs que la publication de la plaquette est concomitante de la... du dépôt des archives de Champion aux archives nationales. Donc c'est quelque chose qui nous touche relativement, les chartistes, parce que bon, c'est une librairie, comme on l'a dit, d'érudition, de libre, d'histoire, de philologie, de domaine, dont a priori l'école des Chartes n'est pas la plus éloignée.
Justement, c'est une question que j'allais vous poser, Jean Pruvot. Cette maison d'édition, tout de même, elle a l'image d'une maison d'édition un peu, pas très grand public, un peu pour un public spécialisé, comme vous le dites, des philologues, des linguistes ou des amateurs de manuscrits rares.
Alors effectivement, c'est tout part un peu d'ailleurs comme pour Monsieur Slatkin, Michel Slatkin, son fils et ses deux fils, qui ont repris la maison depuis les années 1970. Tout part d'un goût pour les livres anciens, un goût de bouquiniste au très haut sens du terme. À Canal Academy, on est environné de bouquinistes. Et derrière ce goût des bouquinistes, le goût de rééditer des choses anciennes, essentielles, mais qui peuvent avoir disparu, qui peuvent être en dehors, évidemment, du champ de commercialisation, et en même temps d'avoir des érudits. Frédéric Barbier évoquait l'école des Chartes, dont il est issu. On ne peut pas meilleur érudit que ceux qui sortent de l'école des Chartes pour analyser les textes du Moyen-Âge et beaucoup d'autres textes. Et du même coup, c'est effectivement dans cette perspective-là que se situe Honoré Champion. Il a 24 ans quand il prend son autonomie et va racheter... louer dans un premier temps la librairie de Thibault. Et la librairie Thibault était fort connue à Paris puisque c'était le père d'Anatole France. Alors elle est fort connue maintenant, mais elle était déjà fort connue auparavant, avant qu'Anatole France ne devienne lui-même célèbre et académicien, parce que c'était une librairie, comme on les appelait, librairie à chaise.
C'est-à-dire
où on venait s'asseoir, comme on le fait encore chez Honoré Champion, 3 rue Corneille maintenant. C'est-à-dire qu'au fond du magasin, il y a des chaises sur lesquelles on peut s'asseoir, feuilleter les ouvrages. Et on dit même que bien des académiciens avaient leur fauteuil à l'académie et quasiment leur chaise aussi chez Honoré Champion. Alors que c'est
histoire.
Cette tradition, c'est-à-dire que on n'en vend pas 300 000 exemplaires, mais on vend aux personnes érudites qui ont besoin de ces documents. Et peut-être pour mieux le situer, dire que Honoré Champion va d'une part être sensible à tout ce qui consistait dans cette littérature du Moyen-Âge, ce qui consistait à offrir des textes dans le fond difficiles à analyser si on ne les traduisait pas, si on n'offrait pas des notes très précises et que seuls les érudits peuvent écrire, rédiger. Et en même temps, alors c'était peut-être ce qui a fait le trait d'union avec le 20e et le 21e, il s'est intéressé, comme les romantiques, aux textes contemporains. Ainsi, il s'est passionné pour Chateaubriand et il a acquis le manuscrit personnel des mémoires d'outre-tombe qui avait été remis à Madame Récamier. Et évidemment avec des notes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des notes de Madame Récamier, des notes de Chateaubriand lui-même. Et alors il était tellement passionné, c'est un fait qu'on connaît peu, par Chateaubriand, qu'il avait acheté une maison dans la vallée aux loups, vous savez, qui n'est pas très loin de Palaiseau. La Rousse hantait aussi d'ailleurs les collines de Palaiseau, il doit y avoir des lieux un petit peu... Du coup, il s'intéresse à ce qui se fait en son temps. Alors l'école des Chartes a quelque chose d'émouvant, parce que elle venait de naître, je crois qu'elle date des années 1820, j'espère ne pas dire de bêtises. Nous sommes là en 1870, bon, 50 ans c'est déjà pas mal, mais c'est peu à l'égard d'une grande institution comme la maison l'école des Chartes. Et il va directement, par exemple, pour Antoine Thomas, qui vient de soutenir sa thèse, le lendemain même, il va le rencontrer en lui proposant d'éditer son travail. Et Thomas dit que 20 ans après, il en était encore ému. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à ce qui se fait, on pourrait dire, de moderne, sur l'ancien.
De contemporain, hein, en tout
de
cas
contemporain.
Pour lui.
Voilà. Et c'est un peu le propre de ces maisons d'érudition. C'est de ne surtout pas oublier ce qu'ont fait d'extraordinaire nos prédécesseurs, revus, travaillés, glosés par les meilleurs spécialistes du moment. Présence de Frédéric Barbier.
Alors justement,
ici,
Frédéric Barbier, au point de vue historique, est-ce que cette période des années 1870, donc jusqu'à la guerre de 14, mettons, enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est une période propice pour l'édition? Est-ce qu'on voit se développer le livre imprimé à ce moment-là?
Oui, bien sûr. Jean Prouvé fait allusion il y a quelques instants à un certain nombre de choses importantes. Par exemple, l'existence des librairies de chaises, qui est en effet un élément qui a joué un rôle certainement décisif dans la réussite d'un certain nombre de maisons, c'est-à-dire que ce n'était pas le tout venant qui venait s'asseoir chez Champion, c'était un certain nombre d'habitués qui étaient probablement, pour un certain nombre d'entre eux, précisément membres de l'Institut ou qui étaient liés aux institutions installées sur la montagne de Sainte-Geneviève, mais et qui étaient sûrs, comme le faisait déjà Nodier dans les années 1830-40, qu'en allant chez Champion à tel moment après déjeuner, on y trouverait un certain nombre d'amis avec lesquels on allait s'entretenir de choses qui nous intéressaient. Cette idée était réellement à la base de la réussite, je crois, d'un certain nombre de ces libraires qui sont quand même au départ de petits libraires, qui ne sont pas de très très grosses maisons et qui réussissent par la, ce qu'on appelle aujourd'hui en histoire un peu la sociabilité, le fait d'avoir des relations avec un certain nombre de gens que ça intéresse et qui vous intéresse. Il y a un deuxième point que vous avez évoqué qui est celui de monter à Paris. Le fait que Champion monte à Paris n'est pas anodin, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Commencer par Hachette, comme vous l'avez dit, les frères Lévy, les frères Garnier, enfin, pratiquement tout le monde au 19e, à un moment ou à un autre, est monté à Paris, soit pour faire de l'édition ou de la librairie, comme on pourrait le dire, soit pour écrire, comme c'est d'ailleurs dans un certain nombre de romans. Je pense qu'il y avait réellement à ce moment-là, dans les années 1820-1870, une cinquantaine d'années, une sorte d'appel d'air qui rendait beaucoup de choses possibles. Et là, je réponds plus précisément à votre question. Le 19e, disons globalement, c'est le moment de la deuxième révolution du livre, c'est-à-dire de la révolution de l'industrialisation, de l'ouverture de la société au fond des médias de masse. Puisqu'au 19e, un certain nombre de quotidiens vont être publiés à la veille de la guerre de 14. Il y a 4 quotidiens à Paris qui tirent chacun à plus d'un million d'exemplaires, chose qui, bien sûr, n'existe plus. Mais ça veut dire il y a réellement un appel d'air au fait qui fait qu'on peut, en effet, faire carrière. Mais en général, on ne fait pas carrière parce qu'on ne réussit pas. Mais dans un certain nombre de cas, on réussit. On peut donc faire carrière à Paris. Et Champion est tout à fait dans cette perspective-là. Je crois qu'il y avait une chose qui est très frappante et qu'on a du mal à rationaliser finalement, c'est le fait que quelqu'un qui arrive sans fortune, sans formation intellectuelle particulière, puisqu'une, disons, 14-15 ans, c'est quand même jeune, trouve les moyens de s'établir en ville, de s'imposer dans un milieu qui n'est pas tellement ouvert, a priori, d'acquérir au fond un certain bagage intellectuel, une certaine forme de distinction culturelle et sociale qu'il permet à la maison ensuite de fonctionner. Je crois que là, il y a un élément intéressant. Il était encore possible, autrement dit, de venir à Paris, de prendre un local, par exemple, comme Techner le fait avant Champion, en face du palais, en face du Louvre, en face de la colonnade du Louvre, ou comme Champion le fait, comme vous le disiez, sur le quai ici, pour un prix relativement limité aussi.
Et Frédéric Barbier, de ces maisons qui, si je vous entends bien, ont fait florès finalement entre 1820 et 1870, en est-il encore de nombreuses aujourd'hui? Alors, il reste Honoré Champion, bien sûr, ça on l'a compris. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a peu. Il y en a peu parce que la France est un pays relativement centralisé, y compris du point de vue démographique. C'est-à-dire qu'en somme, l'édition française se fait à Paris et pas tellement dans les départements de ce qu'on appelait au 19e la province. Mais donc l'édition se fait à Paris et l'édition française, en définitive, est une des plus concentrées du monde. vous avez deux ou trois, dans la pratique, il y a deux énormes conglomérats qui occupent le terrain et qui ont intégré les anciennes maisons du type Armand-Collin, Masson, etc., etc., et Hachette, bien entendu. Donc, des maisons, comment dirais-je, sans mauvaise part, mais des maisons à la marge, en dehors de ce monde-là, il y en a très peu. Il y en avait encore une il y a quelques années, qui était la Liebeck-Lingsic. Elle a été intégrée également. Et finalement, j'ai l'impression que Champion est une des rares, avec la librairie Belin, que juste en dessous du Sénat, une des rares maisons indépendantes qui est continue à subsister. Mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant aussi du point de vue de l'histoire plus large des médias.
Alors,
dont
on
va peut parler peut-être tout à l'heure.
Voilà, on va revenir dans un court instant avec nos invités, Jean Pruvot et Frédéric Barbier. Je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Academy.
Retour dans notre studio, nous retrouvons Jean Pruvot, donc directeur éditorial de la maison d'édition Honoré Champion, et Frédéric Barbier, directeur à l'École pratique des hautes études et spécialiste de l'histoire et de la civilisation du livre. Alors Jean Pruvot, on a compris que le personnage d'Honoré Champion est un personnage tout à fait exceptionnel, mais en même temps un personnage relativement typique du XIXe siècle, finalement. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette maison d'édition ? D'abord, quels sont les grands auteurs qu'elle a publiés, les grands événements éditoriaux, les livres que l'on peut noter ?
Oui, alors je vais rebondir aussi sur l'idée de famille. On évoquait Belin et on évoquait Honoré Champion comme des maisons, dans le fond, qui restent familiales. Et ça, je crois que c'est très important parce que c'est aussi le plaisir que j'ai eu à accepter cette direction éditoriale. Je me retrouvais pas dans un grand groupe que je connais. J'ai travaillé chez Larousse, je travaille aussi chez Bordas, mais je me retrouvais avec une famille et donc avec des interlocuteurs qui ne sont pas des grands groupes, avec une équipe qui, chez Champion, est vraiment, je dirais, familiale, même s'il n'y a pas de lien de famille entre eux. Et puis, chez Slatkin, qui est à Genève, un père, Michel Slatkin, ses deux fils, qui poursuivent l'entreprise en même temps que les éditions Slatkin. Donc c'est très important parce que ça donne un univers de transparence, de volonté, de réussite, au-delà simplement de l'argent. Je dirais qu'un grand groupe, alors je vais peut-être être monstrueux, mais le directeur d'un grand groupe, le directeur d'une maison d'édition, ça m'est arrivé 10 fois de changer de directeur, aussi bien chez Larousse que chez Bordas, etc. Bon, là c'est pas possible. Vous avez Michel Slatkin qui dirige les éditions Slatkin et patronne Champion, et on a affaire à une personne qui a le souci du coup de pérennité, vous voyez, le souci familial de continuité. Alors comment ça s'est passé ? Je vais revenir et répondre vraiment à votre question. Mais si on est au 19e, je reprends l'article de 1913, ce qui montrait la notoriété, et comme le mettait en avant Frédéric Barbier, la notoriété possible de gens qui étaient partis de presque rien et qui, à la fin, ont construit une sorte de, pas d'empire, mais en tout cas, de véritable domaine. Voilà ce qu'on dit au moment où Honoré Champion meurt à 67 ans, en 1913, dans l'article du Larousse mensuel illustré de 1913. 3 mois après, un article est consacré à Honoré Champion.
Et vous ne nous aviez pas encore cité un dictionnaire, ça m'étonnait
ça,
aussi.
Ça ne
Alors,
pouvait,
vous avez le droit, c'est
ça
le
pouvait
moment.
Souffrir plus longtemps. Alors voilà ce qui est dit, je n'évoque pas tout. D'abord, on évoque le côté libraire à l'ancienne. Ça commence comme ça, l'article. Champion, Jean-Baptiste Honoré, éditeur français né le 13 janvier 1846, mort à Paris le 8 avril 1913. Honoré Champion a rappelé de nos jours le type de l'éditeur de la Renaissance, érudit dans sa profession, passionné pour les livres rares et les manuscrits précieux. Il avait débuté très jeune, etc., ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et puis il y a une autre partie de l'article, l'article est très long, hein, fait presque 2 colonnes, où on évoque son œuvre, l'archéologie, l'humanisme, l'histoire littéraire de la France, de l'Italie et de l'Espagne, l'histoire de la Renaissance, l'histoire de Paris doivent beaucoup à Honoré Champion, chez qui paraissaient d'importants périodiques, tels que la Romagna, la revue des bibliothèques, la revue de philologie française et de littérature, la revue celtique, la revue de l'art chrétien, la bibliothèque de l'école des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, le Moyen-Âge, la revue bénédictine, le recueil des travaux relatifs à la philologie, à l'archéologie égyptienne et assyrienne, tout ça étant des titres. Fondateur en 1874 de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France, il en était demeuré l'éditeur, comme il était celui de la Société de linguistique, éditeur des œuvres de Léopold de Lisle, d'Arbois de Jubainville, d'Alfred Maury, d'Auguste Longnion, de Siméon Luce. Il publia le monumental atlas linguistique de Gilliron et Edmond Edmond, fonda la Bibliothèque littéraire de la Renaissance et la collection des classiques français du Moyen-Âge. Puis il donna ses soins à l'édition critique de Rabelais et commença l'édition commentée des œuvres complètes de Stendhal. On a là un panorama très impressionnant. C'est... et qui, je dirais, n'a fait que croître et embellir, enfin s'enrichir. Bien sûr, tout ça existe, tout ça a été sans cesse retravaillé, reglosé, pour être vraiment au goût, et non seulement au goût, mais surtout à jour dans les travaux érudits. Puis après, bah, vous avez là sous la main un catalogue, j'invite les gens.
Combien de titres dans ce catalogue ?
Alors, vous me prenez au dépourvu, plusieurs milliers, 4000 exactement, avec en gros entre 150 et 200 ouvrages qui sont publiés chaque année. Alors ça nous donne une idée, hein, dans le même esprit. Alors je venais vous donner l'image d'hier, l'image d'aujourd'hui, mais forcément il me faudrait une émission de 3 heures.
Non, mais encore
donc,
quelques minutes.
On va se limiter à quelques-uns. On a par exemple l'œuvre complète de Chateaubriand, de Georges Sand, toujours dirigée par des sommités dans le domaine. Hein. Ici c'est Béatrice Didier, on a Madame de Staël, on a dans nos directeurs de collection des gens comme Monsieur Dufournet, comme Madame Cerchiglini. Je devrais tous les citer, j'aurais pas dû commencer parce que les autres vont penser que je les oublie, mais pas du tout. On a vraiment les meilleurs, hein, parmi les meilleurs, parce que bien entendu, on peut pas avoir tout le monde, mais c'est notre souhait de toute façon. Donc on a par exemple des dictionnaires. Alors il y a peu de temps, nous étions à la journée des dictionnaires, on avait publié un mini catalogue, une petite fiche avec pas moins d'une presque une centaine de dictionnaires dont je vais pas donner les titres, mais dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, dictionnaire des termes littéraires, dictionnaire biographique géographique du nationalisme français, dictionnaire de Beaulieu, alors des titres en anglais, dictionnaire donc de nouveau Pierre Bell, etc. Donc on a des ouvrages sur Pierre Larousse, les préfaces de l'Académie française, dictionnaire des usages sociopolitiques, dictionnaire de Port-Royal, dictionnaire de Stendhal. Donc voilà.
Beaucoup d'académiciens qui sont publiés.
Oui.
J'ai vu cela, en effet, dans
voilà.
le catalogue.
Alors, ça n'est évidemment pas étonnant, parce que on s'est toujours intéressé aux grands écrivains. Bon, l'Académie
française.
Oui,
il y a un lien évident.
Pétri,
d'ailleurs, peut-être ce lien entre les académies et la maison Honoré Champion. Frédéric Barbier, vous en avez eu la preuve. Vous savez qu'il y a un lien véritable, à part
oui,
que les académiciens allaient s'asseoir sur les chaises de la librairie.
Non, d'abord, comme vous l'avez dit, Champion a publié un certain nombre de collection et de titres, disons, venant de l'Académie. Et puis, le fils d'Honoré, Pierre Champion, était lui-même ancien élève de l'École des Chartes et rentré aux sciences morales et politiques, je crois, dans les années 1900, pratiquement 1940. Donc, il y a un lien tout à fait direct. Il y aurait un joli petit travail à faire, assez facile, finalement, sur la prosopographie des auteurs, puisque la plupart sont connus, et on aurait vraiment un tableau de ce qu'on appellerait l'écurie Champion
Il n'y a pas de maison d'édition sans grands auteurs,
sans
évidemment.
Auteur.
Donc là, on voit bien qu'il a choisi parmi les meilleurs, autant dans les anciens que dans les contemporains, et puis publié beaucoup d'autres livres.
Je crois que on a insisté sur une chose très importante, qui est encore peut-être plus importante aujourd'hui, c'est cette idée de la sociabilité et des relations avec les auteurs. Le fait que, quand on est dans une maison d'une certaine taille, on connaît les gens, que celui qui a la responsabilité de la maison s'intéresse à ce que l'on publie, non pas seulement du point de vue du titre, mais dans un certain sens du point de vue du contenu. Le fait que, chez Champion, il y a toujours eu, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne peut pas s'arrêter, mais qui sont tout à fait réelles, il y a toujours eu un intérêt direct vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la science, plus ou moins positiviste, mais peu importe, la science, le savoir, disons, réel, entre guillemets. Et puis, il y a toujours eu un intérêt très direct sur un point, quelque chose qui nous échappe aussi aujourd'hui en partie, qui est le rôle du libraire, je veux dire du libraire ou du libraire-éditeur, comme intermédiaire entre différents mondes, entre le monde des auteurs plus ou moins spécialisés et le monde, non pas le monde du public le plus large, parce que c'est une vue de l'esprit, mais le monde d'un certain public, certain type de littérature peut intéresser. Je crois qu'il y a là quelque chose de très très important, parce que c'est une donnée qui a assez largement disparu de l'édition contemporaine en général. On ne s'intéresse pas à ce qu'on appellerait, comme vous faisiez allusion au catalogue, des titres de longue durée. C'est un catalogue, le catalogue de champions, comme celui d'un certain nombre d'autres maisons, qui ne correspondent pas à de la littérature de gare. Ça veut dire que vous ne vendrez pas dans l'année.
On ne fait pas des coups d'édition.
Absolument pas. Hein, c'est des choses que vous vendrez pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais la qualité du catalogue fait que, en définitive, la maison est viable et que le travail qu'on fait dans cette maison-là, on ne le fera pas ailleurs parce que les logiques économiques ne sont pas les mêmes. Donc, nous autres, disons, comme vous l'êtes vous-même, intellectuels du quartier latin, disons, on est tout à fait attachés à ces maisons, surtout en sciences humaines, où, comme vous le disiez, les éditeurs ont certaines tendances à pratiquer le discours éditorial qui consiste généralement à se plaindre des crises de l'édition, mais où en sciences humaines, je disais, eh bien, disons, la période n'est pas la plus faste, peut-être.
Merci Frédéric Barbier. Encore quelques mots, il nous reste 2-3 minutes,
Jean Prévost.
Donc vraiment, pour conclure,
Frédéric
peut-être sur les projets,
Barbier
parce qu'il faudrait nous parler de l'avenir. Un petit
essentiellement,
peu
on va y
voyez.
Arriver, alors vraiment. Mais juste faire le trait d'union. La devise rapportée par les contemporains d'Honoré Champion, c'était la vérité et le bien. Il n'y a pas un mot sur l'argent là-dedans. Hein, c'est pas progresser financièrement. Bon, évidemment, il faut que la maison survive. Il était aussi, et ça je suis content de l'avoir entendu à l'instant, très proche des gens en les soutenant. Anatole France, par exemple, quand il va se présenter à l'Académie, voilà ce que lui écrit Honoré Champion. « Je fais tous mes voeux, j'en dirai un mot au duc de Breuil, à Monseigneur le duc d'Aumale, vous les aurez tous les deux, je compte que vous serez élus. » Donc vous voyez, il soutient aussi ses auteurs, il a envie de les voir réussir là où vraiment ils ont leur dimension. Alors, il y a quelques anecdotes, mais ça, je la donnerai en toute conclusion.
Une anecdote. Ah bah alors, vous y arrivez bientôt, car il nous
alors, l'avenir, l'avenir, c'est tout simplement, d'ailleurs, de garder avec nous des gens de haute stature. Bon, nous avons Frédéric Barbier ici, et tous les auteurs que je pourrais citer, les 20-25 directeurs de collection de la maison. Avoir derrière aussi les jeunes érudits qui arrivent. Ça va du docteur qu'on publie, qui vient de faire une thèse remarquable, au maître de conférence et au professeur d'université de 35-40 ans, qui représente l'avenir, donc qui est une sorte de filiation permanente. Et c'est vraiment, on pourrait associer la maison Honoré Champion à une maison âgée, si on pensait aux ouvrages prestigieux. Mais quand on regarde l'équipe, il suffit de voir ici la directrice administrative pour voir sa jeunesse.
L'équipe est jeune.
L'équipe est jeune. Mmh. Bon, je ne pense pas non plus être d'un âge canonique. Et en même temps, on est entouré de maîtres moins jeunes, mais qui ont gardé véritablement un regard sur le savoir extraordinaire. Donc c'est transgénérationnel, pour utiliser un mot que je n'aime peut-être pas beaucoup, mais on va d'un étudiant là, qu'on va bientôt publier sur tel domaine qui est brillant, qui assure l'avenir, aux maîtres de conférences en pleine activité et aux gens qui ont plus de savoir érudit, comme à l'Académie. L'Académie est précieuse avec son savoir, son érudition. Alors, je vois que vous voulez que j'arrive à la conclusion.
J'attends les anecdotes.
Voilà,
avec
elle passe par l'informatique, bien entendu. Champion numérique va exister. Mais contrairement peut-être aux soucis éditoriaux près de l'argent et trop poussés vers un gain, ce que nous voulons, c'est être au service des auteurs. C'est-à-dire faire du numérique, mais en fonction de leurs besoins. Donc là, ça se fait au coup pour coup et de manière, disons, progressive. Alors l'anecdote, oui, il y en a deux. La première, c'est que un jour, le duc d'Aumale avait demandé à Honoré Champion de promener une jeune fille de grande famille qui s'appelait Mademoiselle S. Et donc Honoré Champion lui a fait visiter Paris, les bibliothèques. Et puis vous savez, c'était sur le quai Malaquais. Et Honoré Champion était là quand l'impératrice de Russie passe avec son carrosse, on regarde. Et à son grand étonnement, il voit l'impératrice de Russie lui faire un petit signe et lui sourire. Et ce n'était autre que cette mademoiselle S, qui en fait était la grande duchesse de S et qui était devenue entre-temps impératrice. Et puis alors l'autre anecdote, on parlait tout à l'heure de librairie de chaises ou à chaises, je ne sais pas trop quelle est la formule. Je vais regarder ça dans les dictionnaires de plus près. Mais au fond du magasin, se tenait Honoré Champion. D'ailleurs, aller au cimetière Montparnasse, il y a la tombe d'Honoré Champion, et on le voit avec sa calotte de libraire sur sa tombe, qui est un véritable monument, qui est vraiment très émouvant, avec des livres derrière, sculptés dans la pierre. Et il était au fond, toujours, de son magasin, sauf quand l'impératrice de Russie, évidemment, passait devant. Et Anatole France, qui venait lui rendre visite, qui était ému par cet homme devenu érudit, et comme Frédéric Barbier l'a si bien dit, monté à Paris, ou en tout cas venant de fraîche date sur Paris pour sa famille, il était devenu un érudit et il lui évoque son opistodome. Je dois dire que bien que adorant les dictionnaires, je ne connaissais pas trop ce mot. Donc en prenant la charge de directeur éditorial, j'ai appris un mot.
Alors, allons-y. Alors,
opisto, ça veut dire derrière, et dôme, maison. Et j'aurais dû m'en souvenir, mais c'est la partie postérieure du temple où se trouve le trésor. Donc il y avait le temple, la maison Honoré Champion et l'opistodome. Ben, je vous assure, l'opistodome existe toujours. Il manque Honoré Champion, mais les chaises sont dans l'opistodome.
Merci Jean Pruvot de ces belles histoires. Merci Frédéric Barbier de nous avoir éclairés de vos compétences. Je voudrais peut-être vous terminer cette émission en vous faisant quasiment une promesse. Canal Académie essaiera de rendre compte de tous les livres d'Honoré Champion, ceux des académiciens au moins. Les autres, on verra, mais ceux des académiciens, c'est au moins notre fonction.
Écoutez,
et nous le ferons avec plaisir.
Sans jeu de mots, nous en sommes très honorés.
Merci beaucoup et à une autre fois pour vos rubriques régulières. Merci Frédéric Barbier.